le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Thierry Casals pour Demain les rêves, un album pour les tout petits à partir de 3 ans. Je crois qu'on peut le lire jusqu'à 93 ans. Illustré par Daria Petrilli et paru aux éditions Motus. Le temps partagé avec Anne de Peufiou et François Simon pour Les règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce, un spectacle de la compagnie À vol d'oiseau, dans une mise en scène de Anne Rousseau et qui se joue dans un petit théâtre, petit parce que pas très grand, mais qui a une très belle programmation. Il s'agit du théâtre La Comédie Nation à Paris. Guettant les premières neiges, mon regard, aussi vague que mon esprit était flou, je vis passer comme une ombre rapide un feu follet devant ma porte-fenêtre. Intriguée, je collai mon nez sur la vitre et la buée qui s'y déposa me ramena à des souvenirs d'enfance, des après-midi de fièvre où je guettais le retour des camarades de classe pour enfin sortir de ma torpeur. Ne voyant rien ni personne, j'ouvris la fenêtre et sortis ma tête bien décidée à ne pas mettre un pied dehors avec ce froid. « Mais que fais-tu là, Carmela? Avec ce froid, tu serais mieux près de la cheminée que sur cette pierre humide à regarder je ne sais quoi, la montagne grise et sans relief, avec ce ciel si bas. » « Je ne regarde pas, j'écoute. » « Mais tu écoutes quoi? Et où est ton grillon negrito ?» Ah, décidément, tu n'entends rien, mais tu ne vois rien non plus. Negrito là, sur mon pied gauche. Bonjour, Negrito. D'accord, j'ai compris, vous avez décidé de bouder, de ne pas répondre ni l'un ni l'autre. Bon, moi, je ferme parce qu'il fait trop froid aujourd'hui. Ne te fâche pas, supplia Negrito. On est juste en train d'apprendre quelque chose de très important pour Carmela. Ah, pardon, je ne savais pas que je troublais une leçon. Ce n'est pas une leçon, c'est une expérimentation, me répondit un peu agacé Negrito. Negrito, souffla Carmela, je suis déçue par notre amie, tu sais. Il faudrait que tu lui proposes de suivre aussi ton école. Elle a vraiment beaucoup à apprendre. Oh, j'ai passé l'âge, hein, les amis, hein. J'ai tous mes diplômes et je fais encore des stages d'adaptation aux nouveaux outils tous les 6 mois. Alors non, merci, hein. Votre école, là, dans le froid, certainement pas. « Dommage, regretta Negrito, mais si nous sommes patients avec toi, peut-être finiras-tu par comprendre. » Carmela se radoucit un peu et me décocha un de ces sourires qui trouent l'horizon le plus bouché. « Tu vois, nous étions venus expérimenter le silence. Il nous semblait que toi aussi tu pouvais faire ce voyage, que tu comprendrais juste en nous regardant et que nos regards échangés seraient plus vastes que ces quelques mots. » Que répondre à cela? Des larmes roulèrent sur mes joues. J'avais rompu quelque chose. J'avais marché dans un magasin de porcelaine avec des bottes de 7 lieues. « Ne pleure pas, s'il te plaît, » me dit Carmela. « Mais d'ici demain ou après-demain ou la semaine prochaine, médite ceci. De tous les éléments du monde, seul le silence déborde le cosmos. D'accord? C'est un poète qui connaît le désert qui l'a dit. » Adje Majid Benjeloun. Tu vois, le vent dans les dunes parle la même langue que le vent sur nos cimes. Thierry Casals, quand on ouvre Demain les rêves, cet album que vous avez signé aux éditions Motus, et on dira quelques mots de ces éditions magnifiques tout à l'heure, on est frappé par la présence pleine, profonde, du silence qui se dégage des dessins de Daria Petrilli qui a illustré votre album. J'ai été très, très surprise par ça parce que c'est assez rare comme expérience.
Oui, c'est vrai que dans les livres jeunesse aujourd'hui, on a tendance à surenchérir, c'est-à-dire qu'on veut par des images assez colorées, assez qui prennent toute la place. On veut attirer le regard d'un enfant et on lui laisse finalement assez peu de temps pour écouter les mots du livre et pour rêver les mots du livre. Et je trouve que ce qu'elle a fait, justement, c'est elle a occupé pleinement sa place d'illustratrice, mais elle a laissé beaucoup de place aux mots et au silence entre les mots. C'est peut-être ce que vous avez ressenti.
Oui, et aussi ce qui peut permettre... que peut permettre la peinture, parce que ces illustrations ne sont pas loin de grands peintres surréalistes, et il y a presque, sans doute pas des citations, mais on part en voyage aussi par ces peintures.
Vous avez raison. Alors Daria Petrilli est romaine, elle vient d'Italie. Donc,
c'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui.
Alors elle n'est pas là, mais c'est vrai qu'on sent dans ce qu'elle fait toute la culture italienne. On sent évidemment les surréalistes, on sent aussi du Hooper. En fait, on peut sentir toute une série d'influences. Moi, j'y vois même aussi un peu de néo-réalisme italien, hein, certains décors comme ça, de villes qui sont traités d'une façon assez réaliste. Voilà, elle travaille avec un système de collage. Toutes les images sont retravaillées sur ordinateur. Et c'est vrai qu'elles sont à la fois très picturales et il y a ce côté composite où on sent qu'elle est héritière de toute une culture.
Merci Thierry Casals de parler si bien des images de ce livre dont vous avez signé le texte. Alors, venons-en au texte. Demain les rêves, le titre est porteur d'un avenir et d'un espoir, alors que le livre nous plonge... je vais lire déjà le début. Ce matin-là, Agathe ouvrit ses paupières avec résignation. La crise, la crise, la crise. Tout le monde n'avait que ce mot à la bouche. Une à une, les usines fermées, les vitrines des magasins fanées. Le cœur des gens s'endormait sous la poussière. Même les arbres des squares n'avaient plus la force de fabriquer de nouvelles feuilles. Pour chasser ses idées noires, Agathe alignait sur la toile cirée de la cuisine des piles de babas et de beignets, des pyramides de macarons et de tartelettes. Sauf que tous ces délices étaient en toc. Cela faisait bien longtemps qu'Agathe n'avait pas mordu dans un vrai gâteau. Quand elle traversait la ville, il n'était pas rare qu'elle surprenne, par une fenêtre, une vieille dame occupée à faire cuire un rôti en plastique ou un poulet en carton. Avec la crise, les adultes, eux aussi, s'étaient mis à jouer à la dinette. Alors, je suis allée jusqu'au bout de ces deux pages parce qu'on voit comment vous partez de la réalité la plus crue et que vivent les enfants, faut le dire, le redire, car on nous dit souvent « Ah, mais traitez pas d'actualité, traitez du rêve et de l'imaginaire, les enfants seraient ailleurs, n'est-ce pas, sur un nuage, puisqu'ils ont des ailes d'ange. » Vous, non, vous partez de ce concret et vous nous amenez tout de suite sur l'imaginaire, avec ces rôtis en carton.
Oui, je pense qu'on a deux pieds, deux oreilles, deux yeux, donc on est fait de réalité et on est fait d'imaginaire, on est fait de rêve et on est fait d'une réalité très concrète, et les enfants le savent, sont capables de passer. Peut-être la différence avec les adultes, c'est qu'ils peuvent passer très rapidement d'un monde à l'autre. Nous, on a tendance, il nous faut des ascenseurs, il nous faut tout un temps pour passer d'un monde à l'autre, mais eux, non. Et d'autre part, il faut savoir aussi qu'un enfant, enfin moi, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup les contes, les légendes, enfin l'imaginaire qui est véhiculé dans les contes et légendes. Et on peut se dire, mais c'est quoi tous ces livres? C'est fait pour fuir la réalité. En fait, c'est des livres qui nous parlent du réel, qui nous parlent de comment grandir, qu'est-ce qu'on va affronter, quels sont les dangers de vivre. Et d'une certaine manière, je trouve que ce qui manque dans notre époque, c'est des livres, des contes, des légendes contemporaines. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas écrire un livre avec un ogre, avec une sorcière, quoique avec un dragon. Parce que personne ne croirait un dragon qui se promène dans une ville. Bon, les gens auraient du mal à y croire. Mais je pense que le dragon contemporain, c'est la crise. C'est le chômage. C'est ça, les créatures d'aujourd'hui. Et j'ai voulu traiter, en fait, ce problème qui est majeur et que les enfants, évidemment, captent de plein fouet. J'ai voulu le traiter sur le mode du conte, qui permet justement de passer à la fois du concret au rêve, à l'imagination. Et surtout, qu'est-ce qui se joue là-dedans ? Et je pense qu'on nous parle trop de chiffres quand on parle de crise, quand on parle de chômage, et pas assez d'émotions, et pas assez de la réalité humaine.
Alors je continue le texte. Oncle Jean était mort de honte. Donc cette petite fille vit avec son oncle, puisque ses parents sont morts. Et elle dira de quoi d'ailleurs après. Oncle Jean était mort de honte, il craignait de se retrouver face aux yeux pleins de questions d'Agathe et prit l'habitude de passer ses journées dehors, errant au hasard des rues à la recherche d'une solution. Et là, c'est une double page avec un dessin sur la page de droite, absolument terrible, où on voit l'oncle, d'ailleurs on voit un paysage qui pourrait être un paysage d'ailleurs un peu de ruines, on ne sait pas bien, qu'on peut en voir en temps de guerre, des images anciennes, et puis au premier, comme une ombre, et au premier plan, l'oncle Jean de dos, la tête baissée, comme on l'est lorsque on est touché par le sort du chômage par exemple, et le visage de la petite Agathe en gros plan dans son dos. C'est une image absolument surréaliste et saisissante sur comment il porte ce fardeau de la honte et la charge de s'occuper de sa petite nièce.
Oui, en fait de la honte et du regard que les autres peuvent porter sur nous. En fait, Daria Petrilli a beaucoup travaillé dans tout le livre sur les regards, c'est-à-dire soit des personnages qui baissent les yeux ou qui ont les yeux cachés, ou qui ne veulent pas regarder, et au contraire, la petite fille, l'héroïne, qui a tendance, au contraire, à regarder. C'est elle qui ne baisse jamais les yeux, qui, en fait, qui va permettre à tous les personnages de les ouvrir, en fait.
Alors, tout de suite après, tout s'éclaircit, et on va suivre l'oncle Jean dans ses recherches de travail. Oncle Jean imagina alors de devenir facteur. Un facteur farceur d'un genre nouveau, refusant de distribuer les lettres de licenciement, les factures, les publicités, et faisant pleuvoir à la place, sur la tête des gens, une multitude de messages multicolores, des lettres gags, des opilantes, avec des mots drôles et dansants, choisis spécialement pour chacun. Il suffit parfois d'un mot pour sauver un cœur de la noyade. Mais la crise ne l'entendait pas de cette oreille. Elle trouva la parade en dégoûtant les gens de la lecture. Car voyons, les mots, ça ne se mange pas, ça ne rapporte pas d'argent. Plus personne n'ouvrit les plis souriants d'oncle Jean, qui finirent par s'entasser sur les trottoirs et boucher les égouts. Alors comme ça, on va voir au fil des pages des tentatives de métiers, éleveur de faux-follets, jardinier d'aurore boréale, cultivateur d'étoiles filantes, bref, des métiers pour redonner l'espoir, et on voit combien la crise se délecte d'empêcher tout espoir.
Je crois que la crise, c'est ça, c'est couper les ailes de nos ailes, quoi. Nos ailes, alors pas nos ailes d'ange, mais nos ailes de papillon, notre imagination. C'est nous ramener au monde plat, c'est-à-dire le monde tel qu'il est et tel qu'il ne bougera plus jamais. Alors qu'il faut savoir que notre monde n'est que le fruit des rêves du passé. Là, je parle dans un micro, dans une radio. La radio a été rêvée par des scientifiques. Très souvent, des savants ont expliqué que leur invention est venue au cours de la nuit dans des rêves. Donc je crois qu'effectivement, tout ce qui nous entoure a été rêvé par nos prédécesseurs et on l'oublie. On l'oublie, on croit que la réalité, c'est ce qui est là, sous les mains, et rien d'autre. La réalité de demain, si on l'arrête de la rêver, elle finit par s'étioler, par se rétrécir. Et c'est ça la crise. La crise, c'est quand on arrête de rêver demain.
Vos paroles sont fortes et le livre est très fort, alors que les paroles ne sont pas du tout dogmatiques ou politiques, avec un très beau P et grand, mais poétiques, avec un grand P grand aussi, et pourtant aussi fortes que celles que vous dites là autour du micro. Alors je lis presque la fin du texte. Agathe et le garçon allèrent trouver oncle Jean. À eux trois, ils feraient une équipe de choc. La crise déteste les gens qui cèdent et œuvrent ensemble. Oncle Jean retrouva aussitôt force et courage. Il sortit de son lit, se retroussa les manches, réfléchit, imagina, rêva. Et tout à la fin, évidemment, on comprend que les choses vont aller mieux parce que les gens vont se réveiller grâce à cette équipe. Agathe et son amie avaient à nouveau du temps pour jouer. À la dinette, bien sûr, mais aussi à cache-cache. Ils se faufilaient dans les placards, derrière les miroirs, entre les briques des murs et même tout là-haut, sur la cime des arbres. Ils restaient là de longues heures, sans bouger, à écouter éclore leurs propres songes. La crise n'aime pas, oh non, elle n'aime pas ça, les enfants qui rêvent.
culture.
Le temps buissonnier.
Aline Paillet.
Un mot peut-être de François David et de ses éditions Motus, qui sont des éditions qui font des livres rares comme le vôtre, et avec beaucoup d'attention, beaucoup d'ambition.
Bon, bah c'est vrai qu'un livre, c'est un auteur, c'est une illustratrice, mais c'est aussi un éditeur. François David des éditions Motus, c'est vraiment quelqu'un à part, parce qu'il est éditeur, mais il est aussi poète, écrivain. Et donc, quand on lui envoie un texte, on n'a pas affaire à quelqu'un qui dit est-ce que je vais gagner de l'argent avec ça ? Mais on a d'abord affaire à quelqu'un qui va lire les mots et qui va rechercher dans ce qu'on propose un livre possible ou pas. Et donc, ma collaboration avec Motus, qui maintenant, c'est le cinquième livre que je fais chez eux. Alors, principalement, j'ai fait des recueils de poèmes, comme Un éléphant au paradis ou Le petit cutou blanc du lièvre, qui sont des poèmes assez courts. Mais chaque fois, j'avoue qu'on se surprend. Le but, ce n'est pas de faire un livre de plus, de faire le cinquième, le sixième, le septième, mais c'est de se surprendre. Et je trouvais que c'était intéressant, après avoir fait des poèmes très légers sur la nature, sur des petits moments de paradis dans la nature, de lui proposer quelque chose d'un peu plus poétique, certes, mais d'un peu plus direct. Évoquant des sujets un peu plus douloureux. Et il est rentré là-dedans très facilement. Donc voilà, c'est un éditeur rare et j'espère qu'il en restera encore, qu'à l'avenir, on aura affaire à des personnes comme ça, parce que les livres, comme les films, comme toute œuvre d'art, ont besoin de gens qui croient en ces livres qui aident les auteurs à les rêver. À les rêver, c'est-à-dire pas uniquement à les rêver dans leur tête, mais à les rêver jusqu'au point qu'ils deviennent réels. Ça, c'est le vrai rêve. C'est le rêve poussé jusqu'à son extrême, c'est quand les choses deviennent réelles.
Vous rêvez pour les adultes ? Vous écrivez pour les adultes aussi ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je ne fais pas d'opposition. Personnellement, j'aime bien m'adresser à l'adulte, au futur adulte chez l'enfant, et à l'enfant chez l'adulte. Je trouve que la séparation est un peu triste. Les adultes sont en fait des enfants endormis, et qui ont besoin, à mon avis, d'être réveillés de temps en temps. D'autre part, les enfants sont des futurs adultes. Il ne faut pas les infantiliser, il faut leur parler avec leurs mots, avec un langage, comme vous dites, poétique, parce que c'est un langage qui va les toucher au plus profond. Mais il faut leur parler du monde dans lequel ils vont grandir. Si on leur parle que de choses infantilisantes, en fait, on ne les prépare pas à l'avenir. Et quelque part, je trouve qu'on les dessert énormément.
Merci Thierry Casals pour Demain les rêves, cet album paru aux éditions Motus. Et avec Anne de Peufiou et François Simon, on a là aussi un petit texte, il n'est pas très très long, de Jean-Luc Lagarce, qu'il a lui-même écrit à partir d'un très ancien recueil, comment on pourrait dire, manuel, Les règles du savoir-vivre dans la société moderne, qui avait été écrit en 1899, c'est ça, par la baronne de...
Baronne Staff.
Oui.
Pas de, Staff. Ah, en fait, elle n'était pas du tout baronne. Voilà, mais elle s'est octroyée le titre de baronne Staff pour écrire.
En tout cas, elle l'a mérité, puisqu'elle a établi ses règles du savoir-vivre. Alors, ces règles du savoir-vivre, c'était une manière d'infantiliser le monde, d'ailleurs. Parce que je réfléchissais à ce que disait Rémi Casals, sans vouloir faire de lien particulièrement audacieux, mais quand même, ces règles du savoir-vivre prenaient l'être de sa naissance, et c'est là tout le spectacle que vous jouez, toutes les deux, de la naissance à la mort, et va prendre toutes les étapes avec les fiançailles, le mariage, le veuvage, éventuellement le remariage, et jusqu'à la mort. Pourquoi avez-vous choisi de monter, Anne et Françoise, cette pièce qui a été quand même pas mal montée de Jean-Luc Lagarce ces dernières années, vous à deux, et avec deux personnages clownesques ? Parce qu'il y a quand même deux clowns, il faut le dire. Il y a tous les codes du clown. Il y en a une qui est très grande, l'autre toute petite. Enfin, j'exagère un peu, mais vous exagérez aussi sur scène, puisque la très grande va être assise sur un très, 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 très grand tabouret, la petite sur une toute petite chaise, et vos vêtements sont clownesques. Bien sûr, il n'y a pas le petit nez, enfin, le gros nez rouge, ni les grandes chaussures, mais On ne s'y trompe pas. Pourquoi avoir choisi cette forme-là pour ce texte-là, Françoise?
La forme, c'est une forme qu'on apprécie particulièrement dans la compagnie, c'est-à-dire amener le clown, qui est un petit peu la partie fragile et cachée de nous-mêmes, à se dévoiler, et puis à dévoiler aussi les secrets de l'intime. Et donc, on travaille beaucoup le clown et la rencontre du texte contemporain et du clownesque pour mettre sur la table des sujets graves et des sujets qui font réfléchir et qui sont contemporains par le biais de l'humour et justement la manière dont le clown peut en parler aussi bien dans ses mots que dans ses gestes pour que ça fasse réfléchir et que ça mette à distance un peu les sujets traités.
Alors c'est vrai, vous avez raison Françoise Simon, parce que quand on vous voit toutes les deux sur scène avec ce texte très établi, on va y venir, vous avez chacune votre personnalité. Donc il y en a une qui est plus, un peu plus directe, un peu plus directive, on va dire, ce qui va bien avec les règles du savoir-vivre, et l'autre qui essaie un peu d'échapper, elle est séduite à un moment donné par quelqu'un qu'elle ne va plus lâcher dans le public, elle part un peu plus dans ses... Ouais, dans ses rêves, dans...
Oui,
elle essaie d'échapper aux règles, en fait.
Oui, en même temps, elle essaie d'échapper, mais c'est elle aussi qui s'enthousiasme sur la convention du mariage, qui va aller dedans et dire oui. Enfin, elle est fleur bleue, voilà, c'est un peu le paradoxe. Et puis, en même temps, on se renvoie un petit peu la balle. Disons qu'en fait, ce texte a été écrit pour un seul personnage, la dame. Et on a décidé d'en faire deux dames parce qu'on trouvait que c'était un peu comme deux aspects d'un même personnage qui sont aux prises l'un avec l'autre, comme on peut l'être avec nous-mêmes. Et que selon les moments de notre vie, on est plus enclin d'un côté que de l'autre. Et donc ça aérait le texte pour le faire
dialoguer. Oui, parce qu'il faut l'aérer quand même. Anne de Peufeuille, vous seriez quoi, vous, par rapport à l'autre personnage?
Ouais, je pense qu'on a clairement quand même des rapports de clown blanc Auguste.
Oui.
Et la plupart du temps, c'est moi le clown blanc. Mais il y a aussi quand même un échange de rôles assez régulièrement, ponctuellement, qui, à mon avis, traduit les ambivalences qu'on a dans la tête toujours vis-à-vis de ce qui nous arrive dans la vie.
Alors parlons de ce texte. On pourrait se dire, oui, vous parlez d'aéré parce que finalement, vous l'avez lu, le texte original?
Moi, j'ai pas lu tout le manuel parce qu'il est épais.
Mais
j'en ai lu une bonne partie, ouais. Y a beaucoup de choses qui ne figurent pas dans le texte de Lagarce, quand même, parce que il y a aussi tout le quotidien, l'organisation des repas, les visites, vraiment tout le quotidien est régenté par ces règles. Alors que nous, dans le texte de Jean-Luc Lagarce, ce sont essentiellement les grosses étapes de la vie. Donc effectivement, il y a la naissance, le baptême, le choix du prénom, le choix des parrains et marraines, les fiançailles, le mariage, et puis les noces d'argent, les noces d'or, le temps qui passe jusqu'à la mort.
Et là, on va écouter un extrait, c'est quasiment le début du spectacle.
Les règles du savoir-vivre dans la société moderne. Ainsi que cela commence. On donne à son premier-né, ordinairement, pour parrain son grand-père paternel, pour marraine sa grand-mère maternelle. Le second enfant aura pour parrain son grand-père maternel, pour marraine sa grand-mère paternelle. Et ainsi de suite, dans les deux familles, par rang d'âge et d'alternance de sexe, s'il est possible.
Ce n'est pas compliqué.
Le premier prénom est choisi par la marraine, le second par le parrain, le troisième l'est par la mère.
Mais le parrain, quant à lui, laissera toujours le choix des prénoms à donner au père et mère et à la marraine.
Les prénoms, je recommence, les prénoms sont donc choisis par le père, la mère et la marraine.
Le premier par la marraine donc, le second par le père et la mère, le troisième par la mère.
Ce n'est pas compliqué.
Pour un garçon, quelques propositions amusantes.
Théopompte.
Prisque.
Canu.
Épaisse-fort,
Hygène,
Tigre, Miché, Popon, Remide,
Sénateur,
et pour une fille,
Cinclétite.
Monorate.
La fille.
Fène.
Faticune.
Macrine. Prisque.
Wereburge.
Rictude. Pod. Potamienne.
Alors, qu'est-ce que Jean-Luc Lagarce, qu'est-ce qu'il veut montrer? Bon, l'hypocrisie, mais aussi, je trouve, l'hypocrisie qui se cache hein, derrière ces règles. On voit bien, c'est le parrain qui choisit, mais en fait, il donne le truc à la mère. Bon, voilà. On a le sentiment que c'est pour se prémunir de l'angoisse de la mort, finalement, ce texte. C'est-à-dire que tout est tellement codifié, tout recommence. Donc, voilà, on peut voyager dans la vie sans trop se poser des questions. C'est pas ça?
Oui, c'est un peu ça, c'est un peu naître et mourir. Voilà, c'est ce qu'on fait sur la
Terre. Et tout est réglé.
Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, pour échapper un peu à ce vide, eh bien, je pense que les humains ont l'habitude de codifier toutes les grandes étapes, en tout cas qui font les passages dans une vie. Et puis oui, voilà, donc pour éviter d'être un peu perdu à ces moments-là.
Alors, oui, mais en même temps, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un texte qui parle ? Comment, par exemple, des jeunes gens, vous avez des anecdotes qui ont vu des adolescents, est-ce qu'ils retrouvent des règles ? On peut les retrouver hein, dans certains milieux très bourgeois. Enfin, pas toutes, mais certaines.
Il y en a certaines qui existent encore. Enfin, moi, personnellement, il y en a certaines, c'est du vécu. Hein. C'est le mariage, c'est du vécu.
Vous êtes baronne hein ?
Non, je ne suis pas baronne, mais j'aurais pu l'être. Mais je me suis mariée à 23 ans, il y a quand même quelques années maintenant. Et ça s'est passé exactement comme ça. Exactement comme ça. Alors aujourd'hui, évidemment, ces règles... Enfin, il y en a beaucoup là qui sont devenues désuètes, hein, qui n'existent plus. Mais je crois que chaque époque s'invente ses règles. Et ces règles... Enfin, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce genre de texte. C'est que ça permet de se questionner, juste de se questionner. Telle ou telle. De toute façon, il y a des règles. On vit en société, on a besoin de règles pour vivre ensemble. On ne peut pas chacun faire n'importe quoi et juste ce qu'on veut quand on veut. Donc effectivement, on a besoin de règles, mais lesquelles et lesquelles sont juste des convenances qui sont là pour nous, juste nous contraindre ou quelles sont celles qui sont utiles et qui nous servent, qui nous nourrissent.
Eh bien, merci hein, pour ce texte magnifique. Vous aviez préparé d'autres extraits, mais on n'en a pas le temps. Mais on va aller vous voir au théâtre, car vous passez dans ce merveilleux théâtre dont j'aurais voulu parler plus, parce que c'est une petite salle, mais tenue par une dame, Pascaline Garneau, qui croit au théâtre, qui croit à la fonction du théâtre, qui fait une programmation très précise, qui a une programmation jeune public, je le dis, et qui accueille aussi des cours de théâtre, etc. C'est un lieu, il faut aider ces lieux à vivre, parce que bien sûr ils vivent sans subvention et sans trop d'aide. Et vous y jouez
vendredi samedi à 19h jusqu'au 21 novembre.
Voilà, donc vous avez tout un mois presque pour aller le week-end assister à cette pièce qui est réjouissante. Il y a aussi l'avare, les justes qui se jouent dans ce... Parce qu'on peut enchaîner, vous êtes à 19h ?
À 19h et puis il y a deux spectacles par soir, donc à 21h il y a
en ce moment il y a les justes à 21h.
En ce moment, voilà.
Ouais. Voilà. Vous régalez sur scène, juste parce qu'on dirait... Hein.
Beaucoup, c'est un spectacle qu'on joue déjà depuis plusieurs années, qui a beaucoup tourné, peu en région parisienne, donc c'est l'occasion de venir le voir.
Et même en appartement. Et on m'a même dit dans le 16e salle. Arrondissement, exactement. J'ai des gens qui ont encore quelques règles pas très éloignées.
Voilà.
Ça devait être sympa, ça. Vous deviez marcher sur des œufs. Merci à tous d'être venus ce studio. On retrouve tout sur notre site. On peut aussi télécharger l'émission ou la réécouter. Le temps buissonnier, c'est toute une équipe. Aline Payet, Laetitia Coya, Annie Comier et à la technique Alexandre Dang, le meilleur d'entre nous. Le temps buissonnier, c'est fini. Vous allez retrouver, monsieur Alexandre, vous allez retrouver le premier journal de France Culture à la semaine prochaine.